Pierre Asner, philosophe et géopolitiste, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris. Il est spécialiste des relations internationales, de la violence et de la guerre et de l'histoire de la pensée politique. Il a écrit de nombreux articles dans les revues nationales et internationales. Il enseigne sous-fréquemment aux États-Unis. Vous pouvez lire aussi ses contributions dans la presse quotidienne, par exemple, comme dans ses interventions récentes dans Le Monde. Il a publié de nombreux ouvrages. Je signale « Washington et le monde, dilemme d'une superpuissance » en collaboration avec Justin Vaïs, aux éditions Autrement, cette année, en 2003. C'est un livre, d'ailleurs, que je vous recommande très, très chaleureusement si vous voulez comprendre quelque chose et être bien documenté sur la situation internationale et les différentes doctrines. « La violence et la paix » aux éditions Esprit, en 1995, repris en livre de poche « La violence et la paix, de la bombe atomique au nettoyage ethnique au seuil » collection Point en 2000, et il va publier en août, au Seuil, La terreur et l'Empire, qui est son premier livre, son prochain livre, et qui est La violence et la paix, volume 2. Donc je vais lui laisser la parole pour une cinquantaine de minutes, mais je sais qu'il est abondant. Voilà, on va lui passer la parole tout de suite. Merci. À vous.
Beaucoup. Je suis désolé de ce retard, comme je disais à mon ami Michaud, deux mois d'antibiotiques et deux opérations ne sont rien à côté d'une traversée de Paris entre le Vésinet et ici. Donc, ce n'est pas ma faute. Je m'excuse aussi de ces conditions parce que, bien évidemment, je n'étais pas dans des conditions idéales pour préparer cette intervention. Et enfin, une dernière excuse qui, elle, est structurelle, c'est que je parle de sujets très brûlants, globalisation, guerre, paix, certainement beaucoup de gens, dont moi-même, ont des vues affirmées sur l'Irak, Israël, les États-Unis, le libéralisme, etc. Ici, j'essaierai, peut-être excessivement, mais enfin, c'est ça que j'ai préparé, de donner plutôt des définitions, des outils, des périodisations à partir desquelles que vous pourrez utiliser pour soutenir vos propres positions. Je ne compte pas faire une intervention politique. Alors, je commence par me demander, le titre de toute cette série, c'est l'ère de la globalisation. Et est-ce que nous sommes encore dans l'ère de la globalisation? Bien sûr, la globalisation, elle existe. D'une certaine façon, elle a existé, la meilleure description en est dans le manifeste communiste de Marx, elle existe depuis longtemps, mais elle a pris un nouveau rythme, une nouvelle signification depuis les années 70. Mais elle est apparue au devant de la scène particulièrement parce qu'elle succédait à la guerre froide. On parlait de l'âge nucléaire, on parlait de l'âge de la guerre froide, et on s'est mis à parler de la globalisation dans la mesure où les phénomènes économiques, socio-culturels semblaient prendre le devant de la scène par rapport aux perspectives de guerre et de conflit. Et maintenant, il y a quand même pas mal de gens qui peuvent dire non, nous entrons à l'ère ou bien du conflit des civilisations. Ça, on en parlait il y a quelques années, mais sous une certaine forme, il y en a des aspects maintenant. L'ère de la terreur sacrée, du terrorisme globalisé, ou surtout l'ère de l'empire américain, de l'hyperpuissance américaine qui, depuis la disparition de l'Union soviétique, est restée seule dominante, mais dont qui, pour la première fois depuis deux ans, a vraiment une doctrine et une politique qui s'affirme comme telle. Alors, il y a toujours tout ça en même temps, et la question est simplement du rapport entre les deux. Alors, je commence toujours d'une manière ultra sommaire, mais pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que la globalisation? Techniquement, c'est l'explosion de l'information, des communications, la suppression de la distance en temps et espace, la communication, qu'elle soit militaire ou boursière, en temps réel. Économiquement, c'est la domination du marché mondial, le libéralisme. Et écologiquement, culturellement, etc., on peut dire la prise de conscience des problèmes planétaires depuis le danger d'extinction de la planète par la guerre nucléaire jusqu'au sida, aux épidémies, au refroidissement de la planète, etc. Ce qui est en commun dans tout ça, c'est la dévalorisation des frontières classiques. Or, la guerre, Rousseau dit, la guerre n'est pas une relation d'homme à homme, c'est une relation d'État à État. En principe, la guerre suppose des adversaires définis, un début, une fin. Et ça, depuis un grand moment, la relation de l'intérieur et l'extérieur, de l'État et du monde, et aussi de la guerre et de la paix, sont mises en question. Là aussi, en allant ultra sommairement sur la guerre et la paix, la guerre a été le sort commun de l'humanité, elle a eu un sens religieux ou un sens simplement de la manière de vivre en chassant ou en trouvant des esclaves. Elle est devenue, après, quand il y a eu cette séparation, du moins en Europe, entre l'intérieur et l'extérieur, l'ultime ratio des rois, la diplomatie ou la négociation. Et la guerre froide a introduit déjà une réalité bizarre qui était ni guerre ni paix. Tout le monde a cherché des formules, la paix belliqueuse, la guerre froide, etc., où il y avait de dissuasion, il y avait course aux armements, mais il n'y a pas eu la Troisième Guerre mondiale. Il y a eu, par contre, beaucoup de guerres qui ont changé la face de l'Asie, ou en Afrique ou ailleurs, mais sur l'axe Est-Ouest, c'était cette situation. Après la fin de la guerre froide, il s'est produit, et c'est là qu'il est intéressant de reparler en termes de globalisation, il s'est produit une espèce de fracture, en ce sens que dans le centre développé libéral de la planète, la guerre est sortie de l'horizon. C'est ce phénomène historique qui disait toujours aux étudiants avant d'être à la retraite qu'ils ne se rendaient pas compte de quelle nouveauté c'était, qu'il n'y avait pas la revanche, la guerre entre la France et l'Allemagne, la France et l'Angleterre, la Suède et la Norvège était inconcevable. Mais autour, il y avait des révolutions, des guerres civiles, des génocides. Le problème était intervention ou pas intervention entre ce centre apparemment apaisé et cette périphérie apparemment en ébullition. Et le 11 septembre a porté au sentiment général ce qui déjà se préparait, c'est-à-dire que cette séparation a volé en éclats. D'une part, ce n'est pas à la périphérie de la périphérie, mais au centre du centre arrive l'attentat des deux tours, avec des gens qui partaient des États-Unis, mais qui venaient je ne sais pas combien de pays, et que maintenant on cherche dans 60 pays du monde. Et d'où aussi l'Empire américain qui se nourrit de ça et qui se répand militairement sur la planète. C'est pourquoi justement ce prochain... Pardon ? Oui, je vais essayer, c'est parce qu'il y a tellement peu de temps, mais vous avez raison, je vais essayer. C'est pour ça que je parle de ce thème, la terreur et l'Empire. Normalement, tout le monde a constaté qu'il y a un contraste entre, au point de vue économique, il y a un marché mondial et des communications, mais au point de vue politique, il y a toujours des nations et des États. Il y a ce contraste entre l'économie mondiale et les politiques nationales. Il ne pourrait coïncider que si on avait un gouvernement mondial, sous la forme de l'Empire ou sous la forme de l'ONU, ou si, au contraire, on revenait à l'autarcie, au protectionnisme, à la coïncidence de l'économique, du culturel, du politique et du militaire dans une même nation, un même État. Mais nous savons bien que ça n'existe plus, qu'il y a un écartèlement. Et donc, pour les relations entre la globalisation et la guerre et la paix, il me semble que, conceptuellement, on peut faire trois hypothèses. D'une part, de voir deux processus relativement indépendants. C'est ce que mon maître Raymond Aron parlait du procès et du drame. Il disait, d'une part, il y a le progrès technique, il y a l'interdépendance, et d'autre part, il y a le drame éternel des guerres, des États, des héros, etc. et on ne sait pas si le procès finira par digérer le drame avec le primat de l'économie et de l'individualisme, ou si au contraire le drame, par exemple par la guerre atomique, finira par mettre fin au procès. Je crois que c'était très juste comme description, mais ça nous laissait un petit peu en plan sur la réalité de cette contradiction qu'il faut évidemment dépasser. Deuxièmement, on peut dire, une certaine idéologie libérale dit que la globalisation, c'est la paix, que les guerres viennent des rivalités des États nationaux, et que la globalisation, ça consiste à se rendre compte que nous sommes tous membres d'une même planète, que nous avons les mêmes intérêts par l'interdépendance, ce qui devrait rendre les guerres absolument dépassées. Et la troisième interprétation, qui n'est pas absolument contradictoire avec la seconde, c'est de dire que la globalisation elle-même est source de conflits, elle est source d'inégalités, elle est source de frustration, elle est source de ce grand fait que les sociétés se voient les unes les autres et que les pauvres ou les démunis voient à la télévision ou autrement les riches ou les puissants. Et elle est le théâtre de cette lutte entre la tradition et la modernisation qui affaiblit l'État et, en affaiblissant l'État, rend possible ces espèces d'États anarchiques, de guerres, de pillages, de bandes armées, où il n'y a plus d'État, mais il y a une espèce de guerre ou de criminalité permanente. Et la manipulation des passions, des sentiments par les médias crée non pas une unité transnationale ni un retour à la fermeture nationale, mais de nouveaux conflits, de nouveaux clivages, de nouvelles solidarités. Alors, comme le sujet c'est quand même la guerre et la paix, et on parle beaucoup tout ce mois de la globalisation, je reprends plutôt l'évolution de la guerre et de la paix pour, à la fin, aboutir de nouveau à la globalisation. La guerre, je pense qu'on peut considérer, pour ne pas remonter comme je l'ai fait en introduction avant les États modernes, on peut distinguer au XXe siècle ces trois étapes. La guerre froide, c'était la division, du moins sur l'axe Est-Ouest, l'endiguement, et la dissuasion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de guerre, il y avait en même temps, dans des zones d'influence, l'usage de la force pour les maintenir, et surtout la décolonisation, les conflits nord-sud que nous connaissons, Indochine, Algérie, etc. La deuxième période, après la fin de la guerre froide, qui était caractérisée justement, je devrais le souligner, par le fait qu'il n'y avait pas de heurts directs entre les deux grandes puissances et qu'on n'employait pas les armes nucléaires, mais elles s'affrontaient indirectement dans le tiers-monde. La fin de la guerre froide a produit cette espèce de fracture à laquelle je faisais allusion entre le centre et la périphérie. Partout dans les écoles militaires, on a dit qu'il n'y a plus de menaces, maintenant il n'y a plus que des risques. On a parlé des dividendes de la paix. La France, par exemple, ne se considère menacée directement par personne. Mais d'un autre côté, phénomènes qui existaient déjà, il ne faut pas oublier que la guerre civile au Soudan, par exemple, qui paraît-il a fait 1 million de morts, dure depuis très très longtemps, et beaucoup d'autres choses, mais certaines se sont apaisées à cause de la fin de la guerre froide, d'autres au contraire, le contrôle exercé par les grands étant parti, sont repartis de plus belle. D'où le problème qu'il y avait pendant ces 10 ans, de l'écart entre ces sociétés, disons, bourgeoises, individualistes, où la guerre était sortie de leur horizon, et cet autre univers de peuples qui n'ont jamais connu que la guerre et où il y a une anarchie, un effondrement, des pillages, des conquêtes, etc. Et j'y reviendrai par la chute de l'Empire soviétique, la continuation de ce qu'il y avait déjà au XIXe siècle, la succession des empires ottomans, austro-hongrois, avec la création de nouveaux États, ce qui implique toujours des guerres pour les frontières, pour l'identité, etc. Une sorte de remise en mouvement. Et donc, le grand problème, c'était, est-ce que au centre, qui n'est menacé directement par personne, est-ce qu'il faut faire un mur, ne pas laisser entrer les immigrés et ne pas s'occuper du reste, ou est-ce qu'il faut intervenir, c'est le problème qu'il y a eu pour la Yougoslavie, pour le Timor, le Kosovo, pour le Rwanda où on n'a rien fait, pour, soit pour mettre fin au génocide, soit parce que ces murs ne tiennent jamais, qu'il y a des responsabilités de l'Ouest, le commerce des armes, de la drogue, etc., et les réfugiés qui arrivent sur les côtes. Par exemple, les États-Unis sont intervenus en Haïti essentiellement pour éviter que les réfugiés haïtiens n'arrivent aux États-Unis. Et il y avait déjà des signes avant-coureurs que ça ne tiendrait pas. Personnellement, j'ai été très frappé en 1995 par la secte Aum au Japon qui s'est mis à répandre du gaz sarin dans les rues de Tokyo, qui voulait faire sauter tout Tokyo, et qui était composé d'ingénieurs, de physiciens, qui avaient énormément d'argent, des membres aussi en Russie. Et donc on voyait que dans le pays le plus intégré du monde, il pouvait y avoir ça, et que ce n'était pas simplement les barbares d'un côté, les civilisés pacifiques de l'autre, mais que les deux mondes pouvaient se toucher et s'identifier. Et comme je l'ai dit, alors qu'il y avait une évolution où les États-Unis et en général les sociétés développées voyaient le rôle des armées essentiellement maintien de la paix, maintien de l'ordre, etc. Les budgets militaires, pas celui des États-Unis, sauf un petit peu, mais les autres déclinant, brusquement, et que d'un autre côté, il y avait les Charles Taylor, les Karadzic, etc., qui s'en donnaient à cœur joie avec le nettoyage ethnique, avec le déplacement des populations et tout. Brusquement, on a pris conscience que les deux mondes se rejoignaient, que le centre n'était plus en sécurité et qu'il ne pouvait plus oublier la périphérie. Et là, il s'est passé deux phénomènes par rapport au cours normal de la rivalité, des équilibres et des guerres entre États. Il y a eu parmi les États l'ascension fulgurante, préparée depuis longtemps, mais accélérée, des États-Unis qui dépensent presque la moitié des budgets militaires mondiaux, en tout cas plus que les six pays suivants réunis, et qui, par une transformation technologique, par l'utilisation de la technologie civile, par des idées qui ont eu du succès récemment en Afghanistan et en Irak, c'est-à-dire l'utilisation de la précision, etc., de la mobilité, tout à fait contre la tradition américaine, se sont assurés une avance absolument extraordinaire par rapport à tout compétiteur et à tout allié. Et d'un autre côté, à l'autre bout, la question des armes de destruction massive et du terrorisme montre aussi quelque chose qui est nouveau, c'est-à-dire ce qu'on a appelé la démocratisation de la technologie. Le fait que, d'une part, avec quelque chose de pas très révolutionnaire, des avions de ligne, mais encore plus avec le prix des armes chimiques ou biologiques qui viendront un jour, ou même des armes nucléaires, un petit nombre d'hommes à un moindre coût qu'avant peut infliger des dommages à des sociétés complexes et vulnérables beaucoup plus grandes qu'avant. Et donc il y a cette double asymétrie au point de vue du rapport classique entre puissance, équilibre, unipolaire, multipolaire. Il n'y a pas photo, c'est les États-Unis et aucune coalition ne peut se faire contre eux ou leur résister. Mais d'un autre côté, les limites de leur puissance se montrent très vite. Ils ne peuvent attraper ni Ben Laden ni Saddam Hussein. Et surtout, ils ont cette découverte extraordinaire pour eux qu'ils sont à la fois vulnérables, ils connaissent peu le monde extérieur, ils se demandent d'où ça vient, ils se disent que le mal, il faut l'éradiquer. Et c'est de ce cocktail d'une impression de vulnérabilité, d'innocence et de super invincibilité est extrêmement explosif. Et d'un autre côté, qu'est la constatation, c'est que, et qui a fait un virage instantané dans la conscience américaine, que leur véritable adversaire, ce n'est pas la Chine. L'administration Bush, par exemple, est arrivée en persuadée qu'un jour ou l'autre, le grand rival pour l'hégémonie mondiale serait la Chine, que s'il y avait un conflit, ça serait à propos de Taïwan. Brusquement, on voit qu'ils n'ont pas de rivaux au niveau des États, mais que leur puissance militaire n'arrive pas à être vraiment utilisée à cause d'une poussière de résistance ou de menace et à cause de ce qu'on appelle dans le jargon la guerre dissymétrique, c'est-à-dire qu'on ne va pas se battre contre les États-Unis avec les mêmes armes, mais par le terrorisme, la guérilla, etc. Donc ça, il me semble que c'est quand même quelque chose de vraiment nouveau qui est au centre du système mondial et qui techniquement, des deux côtés, du côté, disons, Bush et du côté Ben Laden, est rendu possible par la globalisation. Il y a cette globalisation du terrorisme à laquelle, d'une certaine façon, on ne s'attendait pas. Je ne suis pas un spécialiste de la chose, mais on m'a dit que la région de la triple frontière où le Brésil, l'Argentine et le Paraguay se touchent est devenue une espèce de nouvelle Libye où se côtoient à la fois des Hezbollah, des Al-Qaïda, des groupes d'extrême droite, toutes sortes de guérillas ou d'organisations terroristes décentralisées, mais qui se prêtent main forte, qui entretiennent des alliances à travers le globe. Et donc, on était habitué soit au terrorisme nationaliste pour l'indépendance, soit au terrorisme classique pour des raisons politiques ou idéologiques. Et il y a cette impression que finalement, même si les uns sont chiites, les autres sont sunnites, les uns sont religieux, les autres ne le sont pas, mais il y a une espèce d'agrégation et de convergence. Bien entendu, le monde ne se réduit pas à cela. J'y ai fait allusion tout à l'heure. Il y a le déclin de l'Empire soviétique, où vraiment les conflits, je me suis beaucoup occupé pendant 10 ans des Balkans, c'est un peu la continuation de ce qu'on a eu avec la chute de l'Empire ottoman et de l'Empire austro-hongrois. Certains pays, comme mon pays d'origine, la Roumanie, la Bulgarie, la Grèce, ont acquis leur indépendance au XIXe siècle, l'Albanie en 1912. Maintenant, ça sera le tour de la Macédoine ou du Monténégro ou du Kosovo. Mais tout ça se fait toujours dans la douleur. Et beaucoup de gens, des spécialistes du tiers-monde, nous disent, mais ne vous frappez pas, c'était la même chose pour vous au XIXe siècle, l'unité allemande, l'unité italienne, l'Europe centrale était pleine de minorités et de conflits ethniques entre les deux guerres, maintenant le nettoyage par le vide fait par les Allemands, les Russes, etc., fait que la Pologne, qui était mosaïque, est un pays plus ou moins homogène. Et voilà, donnez-leur 50 ans de guerre, de nettoyage ethnique, d'invasion et de réfugiés, et ils deviendront à peu près des États stabilisés comme tout le monde. Mais c'est comme pour la théorie du développement, je ne crois pas qu'on puisse faire simplement des analogies, parce qu'il y a justement la globalisation, parce qu'il y a justement qu'on vit dans le même monde, que les États ne veulent tout de suite atteindre la liberté, la prospérité du centre, et que d'un autre côté, que ce soit pour des raisons morales, plus jamais ça, la Shoah, pour les raisons de ce qu'on appelait l'effet CNN, la télévision, on ne peut pas, comme au XIXe siècle, avoir une vie tranquille en Angleterre pendant qu'en Inde, il y avait des révoltes, des répressions énormes, etc. Quand même, tout se voit, la guerre du Vietnam, ça a été terminée comme ça aussi, par la télévision. Donc, ça fait de nouveau un autre facteur qui continue. Il y a des guerres classiques aussi pour le territoire. La guerre entre l'Éthiopie et l'Érythrée a été une guerre conventionnelle, tout à fait classique, avec des centaines de milliers d'hommes et de morts, des armées régulières. La guerre arabo-israélienne, d'une certaine façon, elle a cette dimension absolument énorme, religieuse, morale, métaphysique. Mais d'une autre façon, c'est une guerre pour la terre, un certain territoire dont chacun des deux considère qu'il lui appartient pour des raisons historiques ou religieuses et dont il veut ou bien déloger l'autre, ou bien, il faut l'espérer, trouver un compromis. Entre l'Inde et le Pakistan, il y a déjà eu trois guerres et on est constamment au bord d'une guerre possible et qui a toujours une dimension, mais je crois qu'en partie ça a toujours été comme ça, qui n'est pas simplement interétatique, mais à la fois intérieure et transnationale. Le Pakistan est toujours au bord de l'effondrement, c'est un lieu où se croisent la drogue, la criminalité d'une part, d'autre part les conflits religieux. Et l'Inde, le grand problème de l'Inde, c'est la transformation du nationalisme indien, du nationalisme laïque à la Nehru, au nationalisme hindouiste. Or, il y a plus de musulmans en Inde qu'il n'y en a au Pakistan. Et donc, pour l'instant, ils se sentent encore surtout indiens, mais à la fin, ils se sentiront peut-être surtout musulmans et ça fera une énorme guerre civile en Inde. Et les deux régions dont je me suis occupé, l'une en connaissance de cause, l'autre en collaboration. J'ajoute un tout petit peu à la pub que m'a fait Yves Thibault, que nous avons sorti avec un collègue africaniste, au CERI, un livre qui est sorti récemment, qui s'appelle « Guerres et sociétés, états et violences après la guerre froide », et qui consiste justement à voir les guerres entre le local et le global, et à essayer d'esquisser une comparaison entre ce qui se passe, par exemple, dans l'Afrique des Grands Lacs et ce qui se passait dans les Balkans, où on a tous les niveaux mêlés. C'est des guerres ethniques, tribales. Il y a des États voisins qui convoitent une partie du territoire ou des richesses. Il y a les grandes puissances, en particulier maintenant les Américains, à la recherche du pétrole. Le président Bush est en ce moment en Afrique. Alors, il y a différentes dimensions. Il y a les problèmes africains, mais il y a le pétrole et il y a la recherche d'un substitut au Moyen-Orient, notamment au Nigeria et en Angola. Et il y a l'obsession du terrorisme et l'ouverture de bases, parce que, justement, dans les États un peu en décomposition en Afrique, c'est là, comme on a vu dans les attentats au Kenya, à Somalie, etc., que le terrorisme trouve le plus de refuge. Donc il y a un mélange de tous ces niveaux qui est tout à fait détonnant et qui crée une sorte de nouvelle réalité. Les États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, ont fait un virage presque instantané. L'administration Bush, en arrivant au pouvoir, disait qu'il ne faut pas s'engager à l'extérieur, il faut s'occuper du territoire national et de l'Asie. C'était les deux priorités du programme de défense de Bush, territoire national et Asie. Et brusquement, la Chine, qui était le grand adversaire, est devenue une espèce d'allié. La Russie, contrairement à la France, on lui pardonne tout. Et Bush a déclaré, maintenant, toutes les grandes puissances sont du même côté. C'est la guerre contre le terrorisme. Et, alors, deuxième aspect, contre les États qui soutiennent le terrorisme, sans définir de quel terrorisme il s'agit. Mais effectivement, la nouvelle doctrine de sécurité américaine, comme on ne peut, la dissuasion, c'est vrai que ça ne peut pas marcher contre le terrorisme, contre les gens qui recherchent le suicide et qui n'ont pas de territoire organisé pour des représailles. Donc on se rattrape sur ceux qui leur donnent refuge ou qui les soutiennent. Et du coup, cela fait quelque chose de très dangereux parce que tout peut être justifié par la guerre contre le terrorisme. On appelle l'offensive la défensive, etc. Donc, où est-ce que tout ça nous mène? Je dirais d'abord, il y a ce que j'appellerais le retour de la guerre. Il me semble que les formes classiques de la guerre existent toujours. Il y a la dissuasion nucléaire, il y a, comme je l'ai mentionné, des grandes guerres classiques ou conventionnelles. Mais il y avait toute une littérature disant la guerre, c'est fini, notamment de généraux. Le général Gallois disait les armes nucléaires ont tué la guerre. Il y a un autre général qui est encore actif, enfin à la retraite, mais qu'on voit dans les réunions, le général Le Borne, qui avait fait un livre disant « La guerre est morte ». Donc, il y avait cette idée que la guerre s'est dépassée parce que la Troisième Guerre mondiale n'a pas eu lieu et parce que, effectivement, nos sociétés sont des sociétés civiles, des sociétés économiques, des sociétés où le soldat, moi, quand j'étais jeune, je ne suis pas en France, j'avais des livres où j'apprenais du Guesclin, du Détrouin, des tas de grands capitaines dont Gosse d'aujourd'hui n'a pas la moindre idée. Donc, il y a une sorte de civilisation, ce qui ne veut pas dire civilisation, de nos sociétés. Mais la guerre est de retour. Beaucoup, un stratège très connu, israélien, Van Creveld, fait un livre très connu, traduit en français, « La transformation de la guerre », en disant « La technologie, les armées conventionnelles, c'est fini, la guerre nucléaire, les armes nucléaires rendent impossible la guerre entre Israël et les pays arabes ou entre l'Inde et le Pakistan ». Mais par contre, on aura toutes sortes de ce que, dans un jargon horrible, on appelle des conflits de basse intensité, des guérillas, des révoltes. Et là, c'est toujours le va-lu-pied avec un Kalachnikov qui gagne contre l'appareil immense de l'adversaire surarmé. Or, il n'est pas évident que ça se passe comme ça militairement. Mais il est évident autrement qu'il y a une part de vérité. Je ne me lasse pas de répéter, parce que ce n'est pas une question d'Américains ou d'Européens, mais de répéter ce que Hegel disait de Napoléon. Hegel avait une admiration énorme pour Napoléon. Il trouvait que c'était l'âme du monde qui était passée sous ses fenêtres au moment de la bataille de Jena. Mais alors, il dit à propos de Napoléon en Espagne, Napoléon, c'était le génie de la guerre. Jamais on n'a vu de tels exploits militaires. Mais jamais on n'a aussi bien démontré non plus l'impuissance de la victoire, the Allmacht des Sieges, le fait qu'il ne pouvait pas venir à bout de la guérilla espagnole et qu'il a suscité sous ses pas le nationalisme allemand, le nationalisme russe, etc. Donc il faut bien distinguer le militaire et le politique. Je crois que le militaire, tous les gens qui ont dit c'est fini, la grande guerre, la France, on voit bien que militairement, cette combinaison de l'arme aérienne, des forces spéciales et de la supériorité, de la maîtrise des communications, etc., donne une supériorité à laquelle, après le Vietnam ou les bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, on ne pensait pas. Mais politiquement, c'est toute une autre affaire. Deuxièmement, il y a donc une espèce de relégitimation de la guerre. Il me semble qu'en principe, la guerre, la révolution a duré un peu plus avec Guevara, etc., mais la guerre n'était plus légitime. Les ministères de la guerre s'appellent ministères de la défense. L'idée était, dans la charte de l'ONU, mais dans la conscience générale, que les guerres ne sont justifiées que de manière défensive. Or, nous avons ces deux grands mouvements globaux, j'y reviens, qui tous les deux se conçoivent comme réaction, comme revanche. D'une part, Al-Qaïda n'est que la pointe d'un iceberg, qui est la réaction contre cette entreprise qui va des croisades à la globalisation en passant par la colonisation, la fondation d'Israël, le déclin du monde arabe en puissance et l'humiliation par l'Occident. C'est la djihad, c'est la revanche contre cela. Et inversement, les États-Unis, dont les tendances impériales évidemment existaient, mais qui étaient un empire pas comme les autres, qui encourageaient l'unité de l'Europe qui pouvait être un rival, qui ne s'appropriait pas des territoires et n'avait pas de tradition d'administration impériale, se retrouve avec une raison, une justification, un alibi en or, qui est la lutte contre le terrorisme partout, et également qu'elle voit comme réaction, ce qui est vrai d'ailleurs, contre des gens qui ont juré d'avoir sa perte de tuer tous les infidèles, ou tous les juifs et les infidèles, etc. Alors, ça, c'est ce qui est au centre. Et la question est, est-ce que tout le monde est entraîné là-dedans? Est-ce qu'il y a cette sorte de nouvelle bipolarité, de nouveaux clivages, soit toutes les grandes puissances contre les terroristes, les États brigands qui les soutiennent, soit la guerre des civilisations, avec finalement ce qui s'esquisse un petit peu, les chrétiens, les juifs et les hindouistes, l'Inde est de plus en plus amicale vis-à-vis de Washington, et les hindouistes disent, comme Poutine avec les Tchétchènes, on a les mêmes ennemis, le fanatisme musulman, ou le conflit économique entre le Nord et le Sud, les exploiteurs et les exploités, le centre et la périphérie. Et personnellement, je trouve qu'il faut avant tout résister à cette vision globale, il faut avant tout maintenir des distinctions. Je cite souvent, si quelques-uns parmi vous ont vu l'un de mes écrits, je m'excuse auprès d'eux, un collègue bulgare qui faisait cette différence entre les Américains et les Européens en disant les Américains se sentent en guerre alors que les Européens, au contraire, leur préoccupation, c'est d'éviter une guerre. Et moi, je dis c'est vrai, mais ce n'est que la moitié de la vérité, parce qu'il y a deux guerres. Nous sommes tous en guerre contre Al-Qaïda parce qu'elle est en guerre contre nous. Il y avait des projets, comme vous savez, sur la Tour Eiffel ou d'autres. Il y a eu des Français au Pakistan. Il y aura un jour des deux tours quelque part en Europe. Et le terrorisme, nous le connaissons. Moi, j'enseigne tous les deux mois à Bologne, en Italie. J'ai assisté à la gare de Bologne qui a été détruite par une bombe, à des trains, à toutes sortes de choses pareilles. Donc il y a une vérité du combat de tous contre le terrorisme. Mais ce qu'il faut, c'est à tout prix éviter que cela ne se transforme en ce que je disais, guerre des religions, guerre du Nord contre le Sud, guerre de l'Ouest contre le reste, guerre des civilisations, etc. Et c'est là qu'il y a ce problème, comment penser à la fois la guerre et la paix en même temps en les distinguant. Il est vrai qu'il y a une guerre globale, mais il est vrai qu'il y a les problèmes régionaux, les problèmes nationaux, les problèmes sociaux, dont pendant ces 10 ans après la guerre froide, on avait l'impression que les régions retrouvaient leur autonomie et qu'il y avait dans ce jeu inégal et anarchique des puissances, il commençait à y avoir place pour un tout petit peu de solidarité, de conscience globale, de droit, le tribunal sur la Yougoslavie, etc. Et c'est ça qu'il s'agit en même temps de préserver. Il reste des idéaux et non de paix. La constatation que je faisais au début, c'est que la guerre est devenue inconcevable entre les États, disons, de la zone OCDE, de l'Ouest et du Japon, reste vrai. Ça ne veut pas dire que la violence ne revient pas, mais elle revient sous la forme du racisme, sous la forme de la coexistence des communautés, sous la forme du terrorisme. Mais on n'imagine pas une guerre entre l'Allemagne et la France pour l'Alsace et la Lorraine, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, est extraordinaire et est acquis. Il y a en même temps des guerres qui continuent, qui n'ont pas grand-chose à voir avec l'affrontement des États-Unis et du terrorisme. J'en ai parlé, les conflits de constitution et de dissolution des États. Mais là, de nouveau, les choses se croisent parce qu'il y a, comme ce qu'un article du Monde de Stephen Smith appelait la nouvelle pacification de l'Afrique, il y a incontestablement un retour des anciens colonisateurs dans des zones absolument instables et où il y a une part que certainement beaucoup de gens interprètent comme ça et qui a une part de vérité, c'est les matières premières, c'est le pétrole, les diamants, c'est le vieil impérialisme. Mais il y a aussi cet aspect que les, je l'ai vécu pour le Kosovo, et c'est le cas pour certains pays en Afrique, où on fait appel à l'extérieur, à l'ancien colonisateur. L'ONU est prise en Sierra Leone comme en Bosnie, ridiculisée, prise en otage, et c'est les Anglais qui arrivent et débloquent la situation. La France qui retourne en Côte d'Ivoire, et je viens avant de venir de voir à 4 heures à la télévision des scènes extraordinaires où un groupe d'Américains arrive à Monrovia, des foules en liesse qui les accueillent, mais ensuite Charles Taylor, qui avait dit qu'il voulait la vie des Américains, les fait arrêter, les fait tirer en l'air et dire qu'il est encore lui et qu'il n'admet pas que l'on ne tienne pas compte de lui, etc. Mais il y a cette nouvelle dimension qui est à la fois très ancienne et qui à la fois vient, mon collègue Hassan Salamé, qui entre-temps était ministre de la Culture au Liban, mais avait fait un article et un livre prophétique qui s'appelait « Appel d'Empire vers un nouvel âge des mandats » avec beaucoup de pays du tiers-monde disant « Nous sommes dans l'anarchie, dans la faim, venez, nous ne pouvons plus nous gouverner nous-mêmes ». Avec évidemment la conséquence inévitable que dès que l'ancien colonisateur ou un autre arrive, il est vu comme impérialiste, exploitant et une résistance développe contre lui. Vous voyez toute cette interaction entre des problèmes classiques et nouveaux, le subnational, le transnational, le global, où on a l'impression que toute globalisation entraîne d'autres fragmentations, d'autres clivages. Il n'y a plus de solidarité purement nationale, mais il y a des choses plus diffuses qui se créent. Par exemple, déjà pendant la guerre froide, j'étais frappé combien les conflits étaient localisés, qu'il pouvait y avoir les Russes soutenant l'Argentine dans les Malouines et les Américains soutenant les Anglais, ou bien les Russes soutenant la Syrie et les Américains et Israël dans l'année 82. Mais il n'y avait pas de peur de généralisation. De même, Sarajevo, 91, n'est pas la même chose que Sarajevo 14. Et néanmoins, il y a une espèce de diffusion. Par exemple, on disait beaucoup que la situation Israël-Pays arabe a changé parce que, contrairement à la guerre des six jours, il n'y a pas une armée égyptienne, une armée syrienne. Israël est en tête à tête avec les Palestiniens. Et c'est vrai d'un point de vue classique militaire. Et en même temps, on voit bien la diffusion Ben Laden dans ses premières fatwas ou ses premières déclarations de guerre ne parlait pratiquement pas d'Israël. Et maintenant, il en parle beaucoup et il y a des gens qui n'avaient rien de commun avec lui, mais qui s'adaptent aux attentats suicides. Donc, il y a des nouvelles solidarités qui se créent, en particulier par les médias, les cassettes pour comédie, etc., les réseaux. C'est vraiment, en un sens, plus que la rivalité des puissances, l'opposition entre l'Empire et les réseaux. Et toute puissance suscite une résistance et toute globalisation suscite une fragmentation. Alors, je pense d'approcher de la fin. Quelle conclusion peut-on en tirer? Je crois que c'est très important d'arriver à la fois de distinguer la guerre et la paix et de les penser ensemble. Il y a une vision simple qui, j'en ai peur, devient celle de Bush, mais qui est que l'homme est un guerrier, que c'est dans la guerre, que la vocation des politiques, c'est la guerre. Et vous savez que la fameuse formule de Clausewitz, la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Il y a deux personnes qui l'ont retournée, je ne sais pas si quelqu'un les connaît, c'est Lénine et Ludendorff. Lénine, dans ses cahiers, dans ses annotations sur le livre de Clausewitz sur la guerre, et Ludendorff, maréchal prussien et qui a favorisé la montée du nazisme, tous les deux ont dit non, c'est la politique qui est la continuation de la guerre par d'autres moyens. Et à mon avis, la politique vue comme guerre, c'est ça le totalitarisme. Mais d'un autre côté, il y a une vision angélique qui vient des générations qui n'ont pas connu la guerre, qui dit on est pour la paix, contre la guerre, point final. Ça résout tout. Et donc, il faut laisser les opprimeurs opprimer, les génocides se créer, et même si on est attaqué, il ne faut surtout pas accepter ce jeu-là. Or, personnellement, je trouve qu'il faut continuer à se dire que le but de la politique, c'est la paix, mais que, un peu comme pour la police aussi, la paix à l'intérieur et à l'extérieur ne peut pas se passer de l'existence de la force. Simplement, il s'agit de la mettre à l'arrière-plan, de la rendre négative, dissuasive, plutôt que de l'employer à tort ou à travers. Et c'est là qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, la différence entre Clinton et Bush. Clinton, on peut dire qu'il avait un impérialisme américain, il voulait élargir la démocratie, le capitalisme, c'est dans l'intérêt des États-Unis. C'était un type qui avait évité la guerre du Vietnam, qui n'était pas respecté par les militaires et qui était l'expression de la culture des années 60 et en même temps de l'individualisme bourgeois. Et contre ça, Bush, et je me rappelle déjà pendant la campagne électorale, ça m'avait frappé, il disait le but, la vocation des militaires américains, ce n'est pas de maintenir la paix à droite et à gauche, de faire les nurses ou les administrateurs, tradition que les Français ou les Anglais connaissent pour les colonies, c'est de livrer ou de gagner des guerres. Et je disais, mais quelle guerre ? Et là, actuellement, beaucoup de gens lui montrent le bourrichon en disant, vous allez être le nouveau Churchill, Churchill n'a rien été sans les guerres, c'est comme chef de guerre que vous réaliserez, que vous entrerez dans l'histoire. Donc, je crois qu'il faut éviter les deux. J'aime toujours citer deux formules, l'une de Kessler, nous défendons une demi-vérité contre un mensonge total, et l'autre de Malraux, après la Deuxième Guerre mondiale, et Camus avait la même idée, il est juste que la victoire appartienne à ceux qui ont fait la guerre sans l'aimer. Il faut quelquefois faire la guerre. Mais l'idée, ce n'est pas simplement de vaincre, l'idée, c'est qu'il faut le penser avec avant et après. Il y a une commission de l'ONU qui m'a paru faire un rapport assez intéressant qui était l'impératif de la protection des citoyens, la protection en temps de guerre et la protection après la guerre pour réintégrer, offrir une perspective comme l'Europe pour les Balkans et réparer les plaies, promouvoir la réconciliation. Et c'est ça, me semble-t-il, qui manque aujourd'hui. La guerre s'est transformée, mais la paix, les formules classiques ont eu une certaine efficacité, mais ont fait leur temps. L'équilibre, que ce soit l'équilibre classique des puissances ou l'équilibre nucléaire, il existe. Il a probablement évité la Troisième Guerre mondiale, mais néanmoins, il n'évite pas tout ce que nous venons de dire. Et la conseillère de Bush, Condoleezza Rice, encore hier ou avant-hier, disait la multipolarité, bon, c'était une solution de fortune, mais il n'y a pas de raison, cette rivalité, cette compétition. C'est drôle parce que c'est le même argument qu'on a contre le marché économique, la multiplicité, la concurrence. Non, non, ce qu'il faut, c'est l'unité, c'est-à-dire l'empire bienveillant. Bien évidemment, ça ne peut pas marcher. L'Empire, même s'il veut être bienveillant dans ses intentions, ne peut pas être conçu comme bienveillant par les autres. Il ne peut pas ne pas susciter de résistance. Il ne peut pas, à ce moment-là, ne pas se durcir et devenir beaucoup moins bienveillant. Et donc, il faudrait avoir une conception où, quand on fait la guerre, on pense à la paix, et quand on est en paix, on pense au danger de guerre, à la possibilité présente et à comment les éviter. Et je conclue en parlant de quelque chose que je voudrais bien développer, mais que je n'ai pas développé, c'est qu'il faut intégrer la diplomatie et la stratégie avec l'économique, le social et le psychologique. Parce que ce qui est le pire, c'est la manipulation des passions grâce à la technologie, et c'est la combinaison meurtrière de ces passions, la peur réciproque du génocide, par exemple. Il faut que vous tuiez les autres parce que nous savons qu'ils vont vous tuer, il faut arriver les premiers. Et ça, c'est extrêmement important. Depuis Thucydide jusqu'à nos jours, on a distingué les grandes passions fondamentales, la peur, la recherche de la sécurité et par opposition le courage, la recherche de la gloire et de l'honneur, et bien évidemment la recherche des biens, de la nourriture ou éventuellement l'avidité, la recherche du gain. Or, tout ça se combine dans des oppositions, des combinaisons extrêmement dangereuses. Et je n'en citerai qu'une pour terminer. C'est que on retrouve dans le discours de Ben Laden un discours qui existait chez beaucoup de gens du tiers monde conquis, mais aussi chez beaucoup d'Européens, souvent chez beaucoup de fascistes. C'est l'idée, la décadence plutocratique de l'Occident qui ne peut plus se battre, qui ne peut plus accepter de sacrifices. Faisal Assad avait dit à Kissinger, qui lui disait un jour, vous devrez négocier avec les Israéliens, comme ça date, il lui a dit, détrompez-vous, parce que les Israéliens deviennent comme vous, ce sont des gens qui ne savent plus souffrir et nourrir, nous on sait, et gagnera celui qui saura jusqu'au bout souffrir et nourrir. Et ça, c'est une idée qui est très répandu. Hitler pensait que les États-Unis, ramassés de juifs et de nègres, ne pourraient pas combattre. Il y a cette idée-là, nous les héros, nous aimons la mort comme les autres aiment la vie, les autres céderont. Et il y avait effectivement sous Clinton, en Somalie, même Reagan au Liban, de 20 marines tuées ou une foule sur les quais de Haïti, et on rebrousse chemin. Mais justement, ça provoque, que ce soit chez les Américains ou chez les Israéliens, ça provoque la réaction inverse. Ça provoque la redécouverte des vertus guerrières. Ça provoque le « dis non, on ne nous aura pas, jamais de la vie », et ce qui fait l'escalade. Et inversement, dans leur réaction, comme au Vietnam, les Américains avec les bombardements, les Israéliens avec les destructions de maisons, etc., et une certaine forme de réaction américaine, ça consiste quand même à jouer sur le calcul, ou bien tu cesses et tu auras droit à une zone de libre-échange, à la prospérité, etc., ou bien non, on te casse la gueule de jouer sur la peur et l'intérêt, sans voir qu'à leur tour, ils suscitent l'humiliation, le désir de vengeance, qui sont un des moteurs les plus puissants des guerres. Et donc, tant qu'on n'aura pas intégré à la fois les décompositions d'États et de sociétés qui provoquent des guerres souvent par la faiblesse des États autant que par leur force et qui ouvrent la voie des bandes prédatrices, des enfants soldats, etc., mais à la fois aussi cette espèce de dialectique des passions, on ne comprendra pas que l'autre, à la fois, n'est pas comme vous, peut réagir autrement à une autre culture, mais en un autre sens est comme vous et réagira à l'humiliation, par exemple, ou à la peur comme vous, on n'aura rien fait, parce que ni l'Empire, ni le thème qu'a notre ministre des Affaires étrangères, le droit, la paix par le droit, l'ONU, le Conseil de sécurité, ça n'a pas marché. Aucun État n'attend le vote du Conseil de sécurité. Ce qui a mis fin au génocide cambodgien, c'est les Vietnamiens pour leurs propres raisons. Ou à Amin Dada, c'est les Tanzaniens pour leurs propres raisons. Les États suivent leur intérêt, ne délèguent pas l'usage de la force. Mais en même temps, il y avait des débuts de concertation, des débuts d'acceptation d'une règle commune et des débuts de compréhension entre les autres qui ont l'air actuellement dangereusement mis en péril. Et c'est ma conclusion. Un important historien militaire et stratège anglais, Michael Howard, avait fait une conférence qui est devenue une petite brochure qui s'appelait « L'invention de la paix ». Et c'était une citation d'un auteur anglais du 19e siècle qui disait « La guerre a toujours été une réalité, mais la paix est une invention. La paix, c'est une idée récente qu'il ne pourrait pas y avoir de guerre, qu'on pourrait être en paix. » Mais dans la deuxième édition, il a mis un sous-titre « L'invention de la paix et la réinvention de la guerre ». Et effectivement, la guerre a été réinventée sous d'autres formes que j'ai essayé de décrire, mais ce qui reste à faire, c'est à réinventer la paix. Je vous remercie. Je pense que à long terme, il a évidemment raison. Mon ancien professeur du Rodel avait intitulé son livre sur les relations internationales « Tout empire périra ». Et évidemment, l'empire américain périra. Ça dépend quand et comment. Le grand historien de Rome, Gibbon, parlant de la décadence de l'empire romain, a cette phrase « Cette situation intolérable se prolongea pendant 300 ans ». Et donc, je crois que l'empire américain périra. Il se peut qu'il périsse beaucoup plus vite, mais par la faute des Américains. À mon avis, les seuls qui peuvent mettre fin à l'empire américain, c'est les Américains eux-mêmes. Il n'y a pas une puissance qui puisse prendre leur place. Et certains de ces arguments, que c'est à cause de leur balance des paiements, de l'économie, leur retard technologique, au contraire, moi je ne suis pas économiste, mais il me semble vraiment qu'au cours des 10 dernières années, ils ont pris une avance extraordinaire par rapport à, il y a 10 ou 20 ans, on disait Japon le numéro 1, ou peut-être qu'un jour un équilibre se rétablira, mais ils ont une telle avance, une telle portée globale justement à tous les points de vue, que je crois vraiment l'empire de le livre de Todd trompeur. On peut dire effectivement qu'en 1945, à l'intérieur de l'Occident, l'Europe était par terre, le Japon n'existait pas, et la part des États-Unis du revenu mondial était plus grande. Mais ils avaient un grand compétiteur qui était la Russie, qui a disparu. Et évidemment, l'Europe, le Japon, le monde, mais les uns sont forts économiquement, bien que plus en crise et plus stagnant que les États-Unis, mais pas militairement. Les États-Unis, là aussi, l'étaient militairement, mais moins qu'on croyait, mais pas économiquement. Les Américains sont absolument uniques d'avoir toute la gamme des formes de la puissance, mais que peut-être ils sont en train de dilapider par cette hubris et cet accent inconsidéré uniquement sur la puissance militaire. C'est vrai. Bien.
Mais vous n'avez soulevé aucun des problèmes d'avenir. Qu'en est-il de la démographie? Qu'en est-il du polylinguisme? Parce que les gens ne se comprennent pas. Qu'en est-il de l'avenir des religions? On peut être pour ou contre Lénine. Il a quand même dit que c'était un poison, je ne me souviens plus de sa phrase, mais enfin elle est célèbre, ce que les poisons étaient la drogue du monde. Et l'incompréhension entre les gens font que cette incompréhension qui est entretenue par la vie économique, hier un orateur disait que la richesse entraînait la pauvreté. À quoi sert la pauvreté? Sert-elle uniquement à enrichir les riches? Mais quelles sont éventuellement les solutions d'avenir? Parce que vous n'avez pas parlé du problème qui intéresse tout le monde, le problème de la mort, que nous le voulions ou non, chaque individu revient sur son nombril et est menacé de mort. Or, on ne fait pas de publicité auprès de chacun sur ce qu'est la mort. C'est notre égoïsme au sens le plus beau du mot qui devrait finalement triompher. Quelle est l'incidence du progrès de la science? Il y a du... Pardon?
Oui.
a-t-il pas donc un espoir dans les progrès de la science, parce que seuls les progrès de la science vont apporter peut-être des choses négatives, mais sûrement des choses positives. Alors, à votre avis, est-ce qu'il faut tout tabler sur la science?
Non. Mais je ne voudrais pas faire une réponse irrespectueuse. J'espère que tout ce cycle très développé, si vous assistez tous les jours, vous donnera satisfaction. Je ne pouvais évidemment pas parler de tout. Oui, je parlais du problème de la mort, du bilinguisme. Je suis d'accord avec vous. J'ai souvent employé cette formule que nous sommes dans un monde où tout est en relation avec tout, mais personne n'a de vrai rapport avec personne. Donc je suis d'accord avec votre idée de la compréhension. Mais pour prendre juste deux points antithétiques, la science et la religion, c'est la... qui sont les deux grands adversaires au cours de la modernité, bien, tous les deux ont deux faces, comme Janus. La religion devrait nous apprendre l'amour, la compréhension, et les guerres de religion sont les plus féroces. D'une certaine façon, on a beaucoup parlé du désenchantement du monde, du déclin de la religion, et maintenant on a une situation très complexe, d'émiettement en Occident avec les sectes, les superstitions, mais le fondamentalisme islamique qui est, comme étaient d'ailleurs les idéologies totalitaires, un mélange d'utilisation de la science et de la technique et de la religion. Et la science, comme je l'ai dit en citant Raymond Aron, ça peut apporter, ça a fait apporter la pénicilline, les antibiotiques qui nous maintiennent en vie, etc. Et ça peut apporter la bombe atomique ou les OGM sur lesquels je n'ai pas d'opinion. Mais je ne sais pas si vous, vous avez la réponse. Moi, je ne l'ai pas, c'est ce que j'ai dit. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faudrait faire une synthèse de tout ça. Il faudrait penser à tout ça ensemble. Mais moi, je suis incapable de le faire. J'ai décrit la situation. Je ne peux pas faire de pronostic, sauf pour dire qu'actuellement, moi, j'étais relativement optimiste après la fin de la guerre froide. Et actuellement, je suis relativement pessimiste. Je vois plutôt les dangers s'accumuler que les chances.
Oui, c'est Mme Thérèse Delpech qui était le chef des, avant 98, le chef des contrôleurs pour Saddam. Et alors, elle a écrit deux ouvrages, L'avenir du nucléaire, et en 97, où elle parle des terrorismes et de la nouvelle guerre. Donc, avant. Et alors, il y a son ouvrage de cette année, Politique du chaos, où elle résume un peu toute la situation pour les pays, les ensembles, les continents, etc. Quel est votre point de vue et est-ce que vous pouvez nous éclairer à partir de cela?
Écoutez, je connais bien Thérèse Delpech et son livre. J'ai eu à le commenter plusieurs fois et j'étais à peu près d'accord avec tout ce qu'elle disait, sauf qu'elle laissait de côté le Moyen-Orient, qui est quand même l'endroit le plus explosif. Donc, je serais assez d'accord avec cette formule de politique du chaos, qui est une autre manière d'exprimer ce que j'ai exprimé en disant que la paix reste à réinventer, qu'on voit les forces de guerre, mais que les formules que les uns ou les autres ont pour la paix, et c'est pourquoi je voulais dire que le problème de la guerre et de la paix, le problème de la maîtrise de la globalisation et le problème de la défense de l'état de droit et de la démocratie se rejoignent. Il faut les penser ensemble. Et actuellement, on est très très loin de le faire. Alors elle, nous étions complètement d'accord sur le Kosovo. Actuellement, elle a mis une telle accent sur le danger des armes de destruction massive, dont elle est spécialiste, qu'elle prenait très très au sérieux le danger des armes de destruction massive de Saddam Hussein et donc l'intervention américaine. Et actuellement, il me semble qu'elle est un peu sur la défensive dans la mesure où ces armes, on ne les trouve pas et où des Américains eux-mêmes ont dit que c'était une des plusieurs raisons pour lesquelles ils sont intervenus. Donc, elle est un peu vulnérable là-dessus, mais je considère que dans l'ensemble, je partage sa vision.
Pierre Asner, merci beaucoup.